Grâce à l'économie.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à tous et à tous. Selon le rapport intitulé « L'emploi en Europe 2006 » publié cette semaine par la Commission européenne, la situation de l'emploi dans l'Union a continué de s'améliorer en 2005 en dépit d'un ralentissement temporaire de la croissance économique. Selon Bruxelles, les réformes portent leurs fruits. Le chômage dans l'Union a baissé de près d'un demi-point, tandis que la croissance de l'emploi a pratiquement doublé. Néanmoins, l'Union reste sous-performante à la fois en termes d'emploi et de croissance de la productivité par rapport à ses objectifs. Selon la Commission, il est donc urgent de redoubler d'efforts pour entreprendre de vastes réformes. Le rapport publié lundi dernier examine de quelle manière certains marchés du travail nationaux parviennent à combiner des clauses contractuelles souples avec un gain de sécurité au travers d'un programme d'apprentissage tout au long de la vie, de politiques actives du marché du travail et de niveaux élevés de protection sociale. Cette approche est appelée la flexicurité. De passage dans la capitale tchèque vendredi, le commissaire européen chargé de l'emploi, Vladimír Špidla, a précisé la signification de ce néologisme européen au micro de Radio Prague.
C'est le terme qui se compose de deux composants. Alors c'est le composant protection des travailleurs. Alors c'est le concept que dans le monde qui se bouge, il faut avoir toujours la protection des travailleurs, mais aussi il faut ouvrir les pistes pour les travailleurs et pour les entreprises réagir très flexible à situations qui peuvent venir. Alors on peut dire que plus, c'est très important, particulièrement important, protéger les travailleurs, en particulier dans les moments de transition, alors formation, soutien organisatoire, etc. Et aussi, naturellement, la protection de revenus, c'est clair.
Selon la Commission européenne, il y a donc une interaction positive entre la flexibilité d'une part et le gain de sécurité des travailleurs de l'autre, ce qui montre que cette combinaison peut contribuer à créer plus d'emplois de meilleure qualité. Les réussites observées au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Autriche et aux Pays-Bas tendraient à montrer que la flexibilité et la sécurité sont compatibles entre elles et se renforcent mutuellement. Elles montrent aussi qu'il n'existe pas de modèle unique valable pour tous. La République tchèque, pays gouverné par Vladimír Špidla au moment de son adhésion à l'Union, s'est récemment vu reprocher de ne pas consacrer une part assez importante de son budget à une politique active pour l'emploi. Aujourd'hui membre de la Commission européenne, l'ancien Premier ministre tchèque confirme qu'avec 0,25% du PIB consacré à l'activation des personnes à la recherche d'un emploi, Prague figure en queue de peloton.
La République tchèque a le système qui est compatible avec l'autre système en Europe, mais c'est la réalité que les dépenses pour la politique active de l'emploi sont en République tchèque très bas. La République tchèque est parmi, je pense, trois pays qui dépensent le moins.
Malgré une évolution positive, la proportion de travailleurs hautement qualifiés par rapport à l'ensemble de la main-d'œuvre de l'Union reste faible par rapport à celle des États-Unis. Le rapport de la Commission affirme qu'il est essentiel de posséder une main-d'œuvre bien formée et capable de s'adapter pour parvenir à une croissance supérieure de la productivité au travers du progrès technologique. Le rapport souligne encore un autre moyen important pour relever les enjeux d'aujourd'hui sur le marché du travail dans une Union européenne à 27 membres, à savoir la mobilité géographique des travailleurs. L'année 2006 en Europe a d'ailleurs été l'année de la mobilité de la main-d'œuvre. Mais avec moins de 2% des citoyens européens en âge de travailler vivant dans un autre État membre, les efforts consentis pour créer une véritable culture de la mobilité doivent être intensifiés, notamment chez les Tchèques, traditionnellement très réticents à quitter leur patrie. Et selon Vladimír Špidla, les efforts devraient porter sur l'élimination non seulement des entraves administratives et juridiques à la mobilité, mais aussi et principalement sur l'élimination des obstacles sociaux, culturels, éducatifs et organisationnels.
Premier problème sont les langues.
Les premiers obstacles sont liés aux langues. Difficile en effet de comparer la mobilité à l'intérieur des États-Unis et à l'intérieur de l'Union européenne quand les langues parlées dans les différents États ne sont pas les mêmes. Le deuxième obstacle à la mobilité, c'est la question du retour, parce que les Européens sont très attachés aux personnes qu'ils connaissent. Ils ont peur qu'après 3 ans à l'étranger, ils vont se retrouver comme des soldats démobilisés que leur tante ne reconnaît plus. Et le troisième obstacle à la mobilité en Europe réside dans le manque d'informations sur les opportunités qu'offre le droit européen, qui va pourtant assez loin en la matière. Les gens ont toujours l'impression que les risques d'une expatriation sont plus grands qu'ils ne le sont en réalité.
Pour encourager la mobilité au sein de l'Union européenne, Vladimir Špidla ajoute qu'il faut également assurer les soins de santé et faire des efforts supplémentaires concernant la reconnaissance des diplômes et qualifications dans les différents pays membres. Tous les efforts recommandés par Bruxelles et la nouvelle campagne de réforme préconisée ont toujours le même but, atteindre l'objectif 2010, le fameux objectif 2010 fixé par la stratégie dite de Lisbonne, une stratégie visant à faire de l'Union l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Fin de citation. Mais aujourd'hui, fin 2006, est-il encore réaliste de parler de cet objectif 2010, en matière d'emploi notamment? Réponse de Vladimir Špidla.
Je pense qu'il y a une très grande probabilité qu'on peut atteindre des objectifs pour les travailleurs plus âgés et pour les femmes. Ça me semble possible. L'objectif général, je ne suis pas sûr.